Radio Okapi. Journal présenté par Daniel Tambinzoni.
L'ONG ACDH recommande aux acteurs politiques congolais de ne plus torpiller le processus électoral afin d'éviter les manifestations publiques, sources d'interpellations et arrestations arbitraires. Ceci en marge de la publication hier de son rapport intitulé « Chapelet d'entorse au droit à un procès équitable au cours du combat pour l'alternance démocratique ». Une vingtaine de pêcheurs congolais à nouveau torturés et dépossédés de leur matériel de pêche sur le lac Édouard dans le Nord Kivu. Les bourreaux sont encore une fois des marins ougandais qui accusent les pêcheurs congolais de violer les frontières lacustres. Ces incidents de plus en plus récurrents deviennent très inquiétants selon l'association des pêcheurs. Un invité dans ce journal, c'est le chef, le président de la société civile de la chefferie de Watalinga, en territoire de Beni. Il parle de la situation sécuritaire qui connaît une petite accalmie malgré quelques incidents isolés. Le président de la société civile plaide pour le renforcement des patrouilles des forces de sécurité dans la région. Il est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Chapelet d'entorse au droit à un procès équitable au cours du combat pour l'alternance démocratique. C'est le titre du rapport publié hier jeudi 15 octobre ici dans la capitale par Action contre l'impunité pour les droits de l'homme ACDH. Olivier Guicomo, chargé de questions civiles et politiques de cette ONG, recommande aux acteurs politiques de la RDC de ne plus torpiller le processus électoral afin d'éviter les manifestations publiques, source selon lui d'interpellations et d'arrestations arbitraires. Olivier Guicomo au micro de Paul Matendo.
Les entorses que révèle ce rapport sont les suivantes. D'abord, les entorses au droit d'assistance par un avocat. Plusieurs d'entre eux n'ont pas été assistés par leurs avocats, surtout à l'étape préjuridictionnelle. Il y a aussi des entorses liées au droit à un juge indépendant. Il y a des entorses liées aux garanties à un traitement humain. Nous recommandons d'abord aux acteurs politiques d'éviter toute tentative de torpiller le cycle électoral parce que ce sont ces manœuvres qui ont conduit à des manifestations et des manifestations qui ont conduit à ces procédures dont ce rapport fait référence. Aux acteurs judiciaires, aux services de sécurité, aux services de renseignement, de respecter scrupuleusement la loi dans les procédures judiciaires pour que toute personne bénéficie de ce que la Constitution de la République et toutes les autres lois garantissent aux accusés.
Le projet de la société des transports en commun Kinshasa, Transco, a été bien planifié avant son lancement, contrairement aux dénonciations de l'ONG Observatoire de la dépense publique, ODEP, dénonciation publiée en début du mois d'octobre sur la gestion de l'entreprise. Propos du chargé des communications de Transco dans une déclaration à la presse hier jeudi. Julino Kasanga regrette le fait que cette ONG n'ait pas approché Transco avant de publier son rapport. Julino Kasanga le dit dans cet extrait sélectionné pour nous par Paul Matendo.
Avons-nous prêté attention au contenu du rapport diffusé par l'ODEP qui fait plusieurs dénonciations graves sur la gestion des Transco? L'ODEP tend à affirmer que l'acquisition de bus Transco s'est faite sans une estimation planifiée dans un cadre programmatique. Il est vraiment regrettable que l'ODEP se soit interdit d'approcher Transco dans le but de présenter un rapport qui lui ferait gagner en crédibilité dont elle a besoin pour sa précieuse mission de contrôle citoyen. Les projets de transport public urbain avaient été bien examinés avant son lancement et à chaque étape. Les avis des experts nationaux et internationaux ont été mis à contribution pour s'assurer de sa réussite opérationnelle. L'acquisition des bus et la création des Transco ont été décidées conformément aux avis de ces experts.
En réaction, l'ODEP affirme que ce rapport a été publié sur base des documents officiels de Transco et que, pour l'instant, il n'est plus question de faire des déclarations à la presse parce que ce dossier est déjà pris en charge par les instances judiciaires. Les femmes rurales jouent un rôle crucial dans l'agriculture, dans la sécurité alimentaire et dans la nutrition, mais elles sont confrontées à plusieurs difficultés. À l'occasion de la journée internationale leur dédiée le 15 octobre, François Kadima, notre collègue de la station Radio Kapi Kananga, a rencontré l'une de ces femmes. Godlive Tchaba fait des travaux champêtres dans la périphérie de Kananga. Hormis le vol de ces cultures déplorées, elle évoque également les difficultés liées aux semences qui exigent des moyens, sans oublier l'accès aux espaces pour cultiver. Godlive Tchaba, au micro de François Kadima, suivez.
Nos cultures sont beaucoup volées dans les champs. Ces voleurs nous font beaucoup souffrir. Il est donc difficile de récolter les produits des champs comme voulu par rapport à cet état de choses. Nous avons également des problèmes liés à la terre, aux espaces. Il faudrait acheter les espaces pour éviter d'être embêtés par certains chefs coutumiers ou les responsables de ces espaces. Nous avons également besoin de semences, parce que pour les avoir, il faudrait les acheter.
En Ituri, à présent, deux dispositifs de lavage de mains, ouvrages évalués à 100 000 dollars américains, ont été inaugurés hier jeudi au marché central de Bunia. C'était à l'occasion de la journée mondiale de lavage de mains. Ces dispositifs ont été construits par l'ONG Mutuelle de Santé, Canaan, en partenariat avec l'UNICEF. La coordonnatrice de cette organisation indique que cette action vise à lutter contre les maladies de mains sales et à prévenir la population contre la pandémie de coronavirus dans ces lieux publics. Le point avec vous, Ezekiel Mouzalia.
Nous sommes au marché central de Bounia. Ici, deux ouvrages construits en matériaux durables sont placés de part et d'autre à l'entrée du marché. Ils servent de lavage de mains. Sur place, passants, acheteurs, taximens et toute autre personne s'en servent pour se laver les mains. L'un d'eux explique l'importance de ces gestes simples.
C'est tout le monde qui fréquente les marchés. On a tous de l'argent à tout moment. Il y a des fréquentes, il y a beaucoup de gens. Les lavages à main, il y a beaucoup de gens qui avaient négligé ça. Il n'y avait pas de portas capitale. Nous venons déjà de comprendre l'importance de lavage à main.
La coordonnatrice de l'organisation Moussaka invite les responsables du marché à faire bon usage de ces ouvrages pour la santé communautaire. Rose Mumbere précise que son organisation va étendre ses actions de forage de l'eau dans plusieurs quartiers. Rose Mumbere.
Les gens qui ont besoin de l'eau au marché ici peuvent venir acheter de l'eau et cet argent va être bien géré, mais dans un compte bancaire pour que nous puissions avoir une ressource où nous pouvons avoir toujours le savon.
Plusieurs activités ont été organisées dans la ville de Bounia pour célébrer cette journée dont le thème retenu au niveau mondial est l'hygiène des mains pour tous. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Allons à présent dans le Nord Kivu où une vingtaine de pêcheurs congolais sont à nouveau torturés et leur matériel de pêche saisi par les marines ougandais sur le lac Édouard. C'était dans la nuit de mardi à mercredi dans les environs de Nyakakoma au sud du lac Édouard. Les représentants des pêcheurs rapportent que ces marins ougandais accusent ces pêcheurs congolais de violer les frontières lacustres. Ces incidents deviennent de plus en plus récurrents et inquiétants. C'est ce que nous explique Bernardin Nyangi.
C'est au total 27 pêcheurs congolais, la plupart de Nyakakoma, qui sont tombés dans ce énième filet des marais ougandais la nuit de mardi à hier mercredi, affirment nos sources. Ces soldats ougandais les accusant de pêcher illégalement dans les eaux territoriales ougandaises et ne pouvant pas les amener en Ouganda suite aux restrictions dues au Covid-19, les ont juste torturés copieusement avant de les relâcher. Par contre, 8 moteurs hors bord et 5 pirogues appartenant à ces pêcheurs ont été saisis. Pour un notable de Rutshuru, ces incidents appauvrissent de plus en plus les pêcheurs congolais. Mboussa Mukanda Aimé.
Depuis 2015, 136 pirogues, 106 moteurs hors bord et plus de 6800 filets sont détenus jusqu'à maintenant en Ouganda. La marine ougandaise traverse parfois les limites pour tracasser les pêcheurs congolais. Aussi, plus de 5000 litres de carburant ont été saisis, ce qui équivalent au moins à 10 millions de francs congolais. Nous demandons qu'il y ait au moins une diplomatie des deux côtés Ouganda-Congo, puisque trop c'est trop.
Les sources du comité des pêcheurs au lac Édouard informent que ces pêcheurs sont actuellement en soins dans les centres de santé de Nyakakoma et Kavinyonge, Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
La République démocratique du Congo et la République de Zambie ont évalué les accords commerciaux et bilatéraux. C'était au cours d'une réunion mercredi à Ndola, en Zambie. Ces accords portent notamment sur l'importation du maïs par la RDC, la lutte contre la contrebande, sans oublier les heures d'ouverture et de fermeture des frontières, tant du côté zambien que du côté congolais, pour faciliter les flux commerciaux entre les deux pays. La partie congolaise était conduite par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, joint par Jean Gandou. Il donne quelques recommandations prises au cours de cette réunion. Écoutons Jean-Lucien Boussa.
Nous avons souhaité mutualiser les efforts afin qu'au niveau de la Zambie, on puisse démanteler tous les dépôts qui sont à la base de ce fractionnement des marchandises et qui causent des torts à la République démocratique du Congo par la perte des recettes publiques. Les heures d'ouverture de nos frontières ne sont plus compatibles avec le besoin de l'accélération du flux de marchandises. Vous rappelez qu'il y a beaucoup d'embouteillages par moment dû au fait qu'à la RDC, on a fermé tôt, à la Zambie, on ferme tard. Et donc, on s'est mis d'accord là-dessus. Nous avons convenu que nos frontières s'ouvrent à 6 heures pour se fermer à 22 heures en ce qui concerne le trafic des marchandises. Nous avons aussi décidé de mettre en œuvre le régime du commerce simplifié en faveur des petits commerçants. Ce régime veut simplement dire que lorsqu'on a une cargaison qui ne dépasse pas par exemple $500, encore qu'il faut qu'on convienne, on n'a pas convenu là-dessus, il n'y a pas de paiement des droits des douanes, etc. Je pense qu'avec la Zambie et l'Angola et les autres pays frontaliers, nous serons obligés, en tant que pays membre du COMESA, de pouvoir travailler sur les sujets afin de donner des facilités aux petits commerçants, en particulier les femmes et les jeunes, et ça permet de réduire la pauvreté.
Dans la province du Tanganyika, un jeune homme a été blessé de 4 balles dans la nuit de mercredi à hier jeudi. C'était lors d'un cambriolage à Kalemie. Une bande de voleurs à main armée a forcé la porte de la maison du jeune homme. La victime a aussi perdu 500 000 francs congolais dans cette attaque. La police dit avoir ouvert une enquête. Je vous propose d'écouter la victime jointe au téléphone par Françoise Avimibé.
C'est la troisième fois que j'ai la visite des bandits. Cette fois, ils sont venus en main armée. Ils ont forcé la porte. Les objets placés à la porte sont tombés et m'ont tiré de mon sommeil. J'ai crié. Ils se sont tus. Ils ont forcé de nouveau la porte. Après, je me suis retrouvé en face des hommes armés. Nous nous sommes battus. L'un a tiré sur moi et m'a atteint au niveau du ventre. Je me suis écroulé par terre. Et un deuxième m'a tiré dans le dos. J'ai crié au secours, mais en vain. Ils ont séquestré beaucoup mon épouse pour avoir de l'argent. Elle leur a remis 500 000 francs congolais. Ils l'ont entraîné pour leur montrer le chemin pour fuir. Et puis, ils l'ont libéré. 4 bandits se trouvaient devant la porte de ma maison. Devant chaque porte de mes voisins, il y en avait 2. 3 étaient armés et un troisième armé d'un couteau.
Dans la province du Kulu à présent, la population de la ville de Bandundu s'est réjouie du rétablissement mercredi soir du courant électrique dans la ville. La ville de Bandundu était plongée dans le noir depuis plus d'une semaine à la suite d'une panne technique au niveau de Maluku. Ici à Kinshasa, Irène Boma nous explique.
C'est aux environs des 17h locales de mercredi dernier que le courant électrique s'est rétabli dans la ville de Bandundu, laquelle ville qui venait de sombrer dans le noir suite à une panne technique du courant. Cependant, ce manque du courant observé pendant plus d'une semaine avait suspendu plusieurs activités commerciales et autres dans la ville, affirment certains habitants. Cette situation inattendue a aussi occasionné la flambée des prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité, notamment la farine de maïs, la farine de manioc, les riz, sans oublier les vivres frais et la braise ont ajouté ces habitants. Surprise par le rétablissement de l'énergie électrique, la population du chef-lieu du Kwilu affirme que c'est vraiment un ouf de soulagement et manifeste sa joie. C'est une joie pour nous, parce que la souffrance avait visité nos familles. D'abord pour se nourrir, ou moudre les foufous de les maïs. Il fallait 500 francs pour moudre une mesure de maïs. En tout cas, le retour du courant, c'est comme si nous sommes délivrés de l'esclavage. On n'avait plus d'espoir.
Je suis très contente de ce que nous avons maintenant du courant. Le courant qui a freiné toutes les activités possibles. Mais maintenant que nous avons le courant, nous pouvons tout faire. Nous étions morts, maintenant nous sommes ressuscités. Vraiment, merci, félicitations aux autorités de SNEL, aux autorités du pays qui ont songé à nous aider.
Notez que toutes les activités qui étaient suspendues faute de l'électricité ont repris depuis son rétablissement. Irène Boma, Bandunduville Radio, Okapi.
Actualité internationale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU félicite le Mali pour la voie prise après le coup d'État. Deuxième prise de parole de l'ONU à New York à propos du Mali depuis le coup d'État du 18 août dernier. Si la première fois le Conseil de sécurité était de rester assez en retrait, aligné sur les demandes de la CEDEAO. Il a été unanimement plus encourageant cette fois-ci dans sa déclaration présidentielle, une déclaration de la plus haute importance selon les normes de l'ONU. Le Conseil de sécurité se félicite tout d'abord de la mise en place des nouvelles autorités du Mali ainsi que de la charte de la transition. Il a aussi exprimé sa satisfaction quant à la libération de toutes les personnes officielles qui étaient détenues jusqu'ici. En Libye, sachez que le cousin de Muammar Kadhafi attaque Hillary Clinton devant la justice suite à la diffusion de la partie déclassifiée des emails de Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine. Une large polémique envahit les pays africains concernés, dont la Libye. Le contenu des courriers électroniques effacés par Hillary Clinton en 2016 concerne l'origine de la révolution de 2011 au moment des printemps arabes, visiblement commandité par les puissances internationales, Washington à leur tête. Hamad Kadhaf al-Dam, qui dirige le front libyen de la lutte, a fait savoir qu'il allait attaquer Madame Clinton devant la justice américaine. L'invité de ce journal le matin sur Radio Kapi est le président de la société civile de la chaufferie de Watalinga, territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. David Mouazé parle de la situation sécuritaire dans cette région qui connaît une petite accalmie malgré quelques cas isolés. Il fait également un plaidoyer pour le renforcement des patrouilles afin de sécuriser la population civile dans la région. David Mouazé s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur le Président David Mouazé, comment se présente la situation sécuritaire présentement dans votre entité?
Généralement, la situation est relativement calme, sauf imprévu, parce que nous venons de réaliser au moins 5 mois sans qu'on assiste à des incursions ou à des violations graves des droits de l'homme. C'est pourquoi nous sommes en train de remercier d'abord nos forces et tout le partenaire du gouvernement de la RDC suite à cet effort-là qu'ils sont en train de fournir pour que nous puissions quand même avoir la petite accalmie que nous sommes en train de vivre pour le moment.
Comment se passe la fréquentation de retourner, que ce soit sur les plans sanitaires et même sur les plans sécuritaires? Comment vous vivez avec eux ici?
Oui, présentement comme nous sommes à Kamango, il y a quand même un retour progressif de la population, parce que vous voyez aujourd'hui, les structures sanitaires commencent à avoir quand même des activités. Il y a même des structures scolaires qui ont commencé ici à Kamango. C'est pourquoi nous sommes en train de remercier nos forces, c'est-à-dire les FRDC, la police et la MONUSCO qui est présentement à Kamango, mais aussi la population, parce que le mariage là civilo-militaire, nous le voyons quand même évolue très bien. C'est pour cela que nous sommes en train de mener des plaidoyers et nous sommes en train d'alerter les différents partenaires de pouvoir nous venir en assistance, parce que dans la zone de retour, il y a beaucoup de besoins qui se présentent. D'abord, quant à retourner, vous savez, les maisons sont détruites. Il y a aussi les structures sanitaires qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin beaucoup d'assistance, beaucoup de besoins qui se font sentir dans la zone de retour.
Les grandes difficultés auxquelles les retournés font face ici sont lesquelles par exemple?
Il y a d'abord le besoin dans la santé, comme je l'ai dit. Vous savez que nous avons d'abord l'hôpital général de référence de Kamango qui est là. Aujourd'hui, ça nécessite d'abord leur réinstallation. Nous avons au moins 3 aires de santé qui regorgent l'agglomération de Kamango, notamment le centre de santé Kamango, nous avons le centre de santé Moussali ainsi que Kitimba. Et dans la santé, nous avons des énormes besoins en médicaments et même dans la construction, parce qu'il y a certains bâtiments qui nécessitent une réfection. Et aussi, dans la zone de retour, la population qui a besoin d'une assistance, parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin des abris. Et aussi, la plus grande préoccupation, c'est d'abord la sécurisation de Kamango et ses environs. parce que aujourd'hui, comme nous vivons une accalmie, nous ne savons pas où se trouve aujourd'hui l'ennemi, parce que depuis que nous avons connu cette situation macabre, nous n'avons jamais assisté à des opérations. Là, je le dis sincèrement, c'est-à-dire les FARDC, même s'ils sont en train de fournir beaucoup d'efforts, nous les appelons encore à des patrouilles pour que nous puissions nous rassurer du retour de la paix complètement dans la zone.
Monsieur David Moise, vous êtes le président de la société civile noyau de la chefferie de Watalinga. Nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie infiniment.
Ovid Mouazé répondait aux questions de Marc Maroufimbo et c'est ainsi que se referme cette troisième et dernière grande édition de la matinée sur Radio Capi aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres.